France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Sully, le héros de l'Hudson. Le 15 janvier 2009, New York est le théâtre d'une scène catastrophe digne d'un film hollywoodien. Dans le ciel, au-dessus de la ville, un avion de ligne de la compagnie US Airways, avec 155 personnes à bord, subit une panne totale de moteur. Aux commandes de l'appareil, le pilote comprend qu'il ne pourra jamais rejoindre l'aéroport le plus proche. Il fait donc un autre choix, spectaculaire, se poser sur le fleuve Hudson en plein New York. Grâce au talent du pilote, aidé par la chance, mais quel sang-froid, quelle précision, l'avion réussit à se poser sans dégâts majeurs. Tous les passagers et membres d'équipage sont évacués sains et saufs. Filmés par la caméra de surveillance, les images de l'amérissage ou de la fleuvrissage, si je puis me permettre ce néologisme, font le tour du monde. Et avec elles, le nom et la photo du pilote. Il s'appelle Sully et les médias le surnomment désormais le héros de l'Hudson. Voilà, l'affaire aurait pu s'arrêter là, dans l'admiration la plus totale. Sauf que dans les années qui suivent, la sortie d'un film biopic sur cet épisode va insinuer le doute sur l'attitude du pilote. Notre invité aujourd'hui, Thomas Negaroff, journaliste et historien, spécialiste des États-Unis. Il présente l'émission Le Grand Face-à-Face tous les samedis sur France Inter et l'émission C'est Politique tous les dimanches soirs sur France 5. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Cara, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Ici Cactus 49, on a heurté des oiseaux, on a perdu le contrôle des deux réacteurs, on retourne à la Guardia.
Ici la tour, arrêtez tous les décollages, nous avons un retour d'urgence.
On ne peut pas revenir, on va peut-être finir dans l'Hudson.
Ok Cactus 49, ce sera à gauche, piste 31.
On ne peut pas.
Vous voulez essayer d'aller à l'aéroport de Teterboro?
Oui.
Tournez à droite pour atterrir à Teterboro.
On ne peut pas le faire.
Ok, par où voulez-vous passer pour Teterboro?
On ne peut pas. On va dans l'Hudson.
Désolé, vous pouvez répéter?
Non, il ne répétera pas. L'échange radio s'arrête là. Net, brutal, sans réponse. L'angoisse s'empare alors de la tour de contrôle de l'aéroport La Guardia, à New York. Ce jeudi 15 janvier 2009, il est un peu plus de 15h27, heure locale, lorsque le vol US Airways 1549, indicatif radio Cactus 49, déclare une panne totale de moteur suite à une collision avec des oiseaux. L'appareil vient tout juste de décoller de New York pour Charlotte, à 850 km de là. Casque mixé sur la tête, yeux rivés sur leurs écrans, les aiguilleurs du ciel suivent impuissants le petit point radar vert de l'avion, désormais en perdition dans le ciel au-dessus de Manhattan. L'alerte est immédiatement donnée à tous les aéroports de la région. Teterboro, Newark, White Plains, Long Island et bien sûr JFK Airport. Tous les vols à l'approche de la région de New York sont mis en attente au cas où Cactus 49 pourrait se dérouter et rejoindre la piste la plus proche. Sur la fréquence radio d'urgence, le chef des pompiers de l'aéroport, Teterboro, demande des précisions sur la situation. Appareil, passagers, chargement et niveau de carburant. Le contrôleur au sol, à la Guardia, annonce au micro « Il s'agit d'un Airbus A320 double réacteur, panne totale de moteur. Il y a 155 âmes à bord, aucune matière dangereuse en soute, réservoir plein avec 18 tonnes de kérosène, intention de l'équipage inconnue. » Sur la grande horloge numérique rouge de la salle du contrôle de l'aéroport de La Guardia, les secondes défilent et avec elles disparaissent peu à peu les derniers espoirs. Sur le canal radio, Cactus 49 ne répond plus. À l'écran, l'avion suit une trajectoire rectiligne. Il longe la presqu'île de Manhattan vers le sud, il perd en altitude, il se rapproche du sol.
Cactus 49, on ne vous voit plus au radar. Vous avez aussi la piste de Newark à 4 km.
Il est au-dessus de l'Hudson. Il est juste 1 km au nord du tunnel Lincoln.
Son altitude, 300 mètres, on l'a en visuel. Il est très proche de l'eau. Alertez tout le monde et envoyez-les au tunnel Lincoln. L'Airbus vient de s'écraser dans le fleuve.
À cet instant précis, les habitants des immeubles de l'Upper West Side à Manhattan, quartier qui longe le fleuve Hudson, sont les témoins d'une scène ahurissante. À la fenêtre des appartements et des tours de bureaux, apparaît la silhouette blanche et majestueuse de l'Airbus US Airways, un épais panache de fumée grise s'échappant de ses réacteurs. L'appareil frôle le tablier de béton du pont George Washington à plus de 300 km/h et plonge vers les eaux glacées de l'Hudson. Rappelons que nous sommes 8 ans seulement après le 11 septembre 2001. Alors le spectre de l'attentat ressurgit, cauchemardesque. Mais aujourd'hui, heureusement, il n'en est rien. Dans le cockpit de l'Airbus, il y a un commandant tout ce qu'il a de plus normal, professionnel et rigoureux, comme tous ses collègues. Enfin, espérons-le. Le pilote tente alors le tout pour le tout, afin d'éviter la surcatastrophe, autrement dit, que son avion vienne heurter les buildings alentour. Incroyable. Le commandant décide d'utiliser le fleuve Hudson comme piste d'atterrissage. Une procédure de dernier recours pour laquelle la chance est ici aussi importante que les qualités de pilotage. La suite. Au terme d'une manœuvre incroyable et au prix d'un sang-froid absolu, le pilote réussit à amener son avion au ras de l'eau, à l'effleurer pendant quelques brefs instants, puis à se poser sans occasionner de dégâts majeurs. Interrogé par le New York Times, un habitant de New York décrit la scène. Ça fait un gigantesque plouf. En fait, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un accident de bateau. Ça ne m'est pas venu tout de suite à l'esprit qu'un avion puisse tomber dans l'eau. C'est au moment où j'ai regardé la scène avec des jumelles que j'ai compris, c'était bien un avion. Au micro de Fabien Saintès, sur France Inter, l'un des passagers de l'avion raconte.
Quand le pilote a fait demi-tour et calmement a dit « préparez-vous à l'impact », là tout le monde a bien compris qu'il se passait quelque chose. J'étais près du hublot, donc je voyais l'eau grossir et se rapprocher au-dessus de nous. Il était inévitable qu'on allait toucher. Ça a fait comme un accident de voiture, l'avion a tangué d'avant en arrière. Quand on a touché, je m'attendais à une explosion, quelque chose qui allait me tuer, je ne savais pas vraiment quoi. Ça s'est pas produit, ça a été un vrai soulagement. Et puis très vite, on voyait l'eau près des hublots, il était vraiment temps de sortir.
Ce jeudi 15 janvier 2009, il est 15h30, heure de New York. Cactus 49, l'Airbus A320 d'US Airways repose silencieusement sur les eaux glaciales du fleuve Hudson. L'appareil est visible depuis la rive au niveau de la 56e rue. Autant dire qu'il n'est pas dans ses conditions naturelles. Jusqu'à preuve du contraire, un avion n'est pas un bateau. Malgré l'impact, quand il touche l'eau, l'Airbus flotte encore. Il dérive lentement vers le sud de Manhattan. Sans perdre un instant, les 6 membres d'équipage évacuent l'ensemble des 149 passagers dans le calme par les 2 issues de secours qui débouchent sur les ailes. L'équipage déploie ensuite les toboggans des 2 porte-avant près du cockpit pour en faire des radeaux de sauvetage. Présent sur les quais, un photographe amateur prend alors une série de clichés qui feront le tour du monde. Sur ces photos, on aperçoit l'Airbus en train de s'enfoncer peu à peu dans l'eau. Sa partie arrière est déjà presque immergée. Et sur les ailes, on distingue une centaine de personnes debout, les unes à côté des autres, gilets de sauvetage jaunes sur les épaules, certaines personnes ont les pieds dans l'eau. Et ça tombe mal. En ce mois de janvier, la température extérieure frôle les moins 10 degrés. La moindre chute dans le fleuve Hudson, et c'est la mort. Alerté, le centre de crise des gardes-côtes fait décoller 2 hélicoptères et envoie sur place plusieurs vedettes rapides d'intervention. Mais les secours sont loin de la zone où s'est échoué l'avion. Ce sont de petits ferries de croisières touristiques qui se déroutent et qui viennent porter assistance les premiers. À leur bord, des touristes qui voulaient voir de plus près la statue de la Liberté. Et bien à la place, ils prendront les photos d'un avion en train de sombrer. Mais ils vont se révéler utiles. Une partie d'entre eux prête main forte aux membres d'équipage des ferries. Ils jettent des bouées de sauvetage, accrochent des échelles aux pontons des bateaux pour permettre aux naufragés de l'avion de grimper à bord depuis le bout des ailes et de se mettre en sécurité. Le capitaine de l'un de ces ferries témoigne.
Dès qu'on est arrivé, avec mon équipe, on a sorti les gens de l'eau, Certains étaient soulagés, d'autres pleuraient ou craquaient nerveusement. Et moi, je disais à mon équipe, même si on n'en sauve qu'un, c'est toujours un de sauvé.
Une grande partie des passagers de l'avion est en état de choc. Certains sont légèrement blessés ou souffrent d'hypothermie, ce qui provoque certes des sensations angoissantes, mais rien de plus. Un homme, en revanche, est dans un état plus préoccupant. Il a les deux jambes cassées. Toutes les victimes sont installées sur le pont des ferries, recouvertes des couvertures de survie. Les touristes partagent thé chaud et biscuits en attendant l'arrivée des secours. Dans les minutes qui suivent, on entend le bourdonnement des hélicoptères de secours et le bruit des moteurs des embarcations des gardes-côtes. L'impressionnante armada de près d'une quinzaine de bateaux se rapproche et encercle la zone de l'amérissage. Présente, elle aussi sur place, les caméras télé enregistrent depuis les airs les images de la fin d'opération de sauvetage. L'annonce de l'accident de l'avion du US Airways en plein New York devient breaking news partout aux États-Unis. Mais pour la première fois dans l'histoire des médias, les traditionnelles chaînes d'information en continu se sont faites doubler par les réseaux sociaux. Quelques minutes à peine après l'amérissage d'urgence, en effet, un New-Yorkais poste sur Twitter la toute première photo de l'Airbus dans l'eau. Il est le premier à l'annoncer avec ce message. « Il y a un avion dans l'Hudson. Je suis dans le ferry qui va récupérer les passagers. C'est dingue !» Reprise par plusieurs milliers d'autres utilisateurs de la plateforme, le tweet de ce jeune homme devient viral. Aujourd'hui, le tweet en question paraît anodin. Mais à l'époque, il marque le début d'une révolution et d'un tournant dans l'essor de Twitter. Désormais, les citoyens, avec leur smartphone, dispensent l'information. Les photos vidéo qu'ils partagent sont reprises par les chaînes de télé, comme ici, sur CBS.
This is a CBS News special report.
Vous regardez CBS News, édition spéciale. Je suis Kelly Currie-Kate au siège de CBS News à New York. Il vient d'y avoir un crash aérien ici à New York. Ce que vous voyez en direct, ce sont les images de l'avion d'US Airways qui s'est abîmé dans le fleuve Hudson. C'est un Airbus A320, vol 1549. Il venait juste de décoller de l'aéroport de LaGuardia et était en route vers Charlotte, en Caroline du Nord. D'après les premiers éléments, l'avion aurait heurté des oiseaux et serait allé tout droit dans l'Hudson. Les premières images montraient le fuselage entier de l'appareil flotter sur la rivière Hudson, les secours évacuant plusieurs passagers qui portaient des gilets de secours. Maintenant, vous pouvez voir en direct, il ne reste plus que la queue de l'appareil qui émerge encore de la rivière Hudson.
Un avion de ligne avec plus de 150 personnes à bord qui se pose sur l'eau, sans moteur, sans dommages et sans faire de victimes. Le scénario est surréaliste et même inenvisageable pour les pilotes et experts du monde aéronautique. Et pour cause, c'est la première fois dans l'histoire de l'aviation moderne qu'un tel épisode se produit. Par le passé, il y a eu des tentatives d'amérissage dues à des situations d'urgence, mais toutes se sont soldées par des crashs. Alors, comment le pilote de l'Airbus du US Airways a-t-il réussi cette prouesse? Eh bien, la réponse tient de la conjonction de deux facteurs favorables. Le premier, c'est que dès le début de la conception de l'A320 dans les années 80, l'avionneur européen Airbus a pris en compte les paramètres de flottabilité de la structure, des réservoirs et de la cabine. Autrement dit, si l'avion venait à se retrouver sur l'eau, ce qui peut arriver lors d'une sortie de piste sur des aéroports situés dans les îles ou en bord de littoral, eh bien l'Airbus A320 est capable de flotter pendant un temps donné, ce qui permet ainsi, en théorie, l'évacuation des passagers et l'intervention des secours. Le second point, c'est la technique d'amérissage utilisée par le pilote du US Airways. Cet homme est un vétéran de l'US Air Force, l'armée de l'air américaine. Il est aussi un pilote expérimenté de planeur. Et c'est ici précisément que réside la clé de toute cette affaire. Aux commandes de l'Airbus, privé de ses deux moteurs et donc de puissance, le pilote n'a pas paniqué. Il a tout simplement appliqué les règles de pilotage qu'il utilise à bord de son propre planeur. C'est-à-dire qu'au moment où les moteurs se sont arrêtés, le pilote a immédiatement utilisé ce qui lui est resté de vitesse pour effectuer un dernier virage en descente et placer son avion parfaitement aligné au-dessus du fleuve Hudson. Ensuite, il a contrôlé la vitesse et la trajectoire à la limite du décrochage, tentant de se maintenir au-dessus des 160 km/h. Enfin, il est descendu progressivement pour se rapprocher du sol, il a attendu et réduit au maximum l'allure de l'appareil et il s'est posé comme il aurait posé son planeur, le nez légèrement cabré, laissant la partie arrière effleurer l'eau d'abord. Nickel. Joint au téléphone sur France Inter, l'ancien pilote Gérard Felzer parle d'un véritable miracle et souligne ici la conjonction de plusieurs facteurs favorables.
L'avion, qui semblait quasiment neuf ou en bon état, le pilote, qui devait certainement avoir une très bonne expérience de pilote, parce qu'il s'est approché au ras du décrochage, de la vitesse minimum d'impact, justement centimètre par centimètre, et descendu tout doucement pour glisser sur l'eau, ce qui a permis de poser l'avion intègre. Intègre, ça veut dire que les ailes, les moteurs ne se sont pas détachés, et les ailes sont restées intactes, ce qui a permis qu'il puisse flotter. Donc on a pu ouvrir les portes, on a pu sortir les toboggans. L'avion, s'il est intègre, il peut flotter encore très longtemps, on peut même le ramener comme ça. Donc, chapeau le pilote, chapeau la compagnie, parce qu'elle a su entraîner ses pilotes et aussi son personnel de bord, qui a su garder son sang-froid. Et puis finalement, vous voyez que les informations aux passagers, ça marche, parce que les passagers avaient leur gilet et que malgré le peu de temps qu'ils avaient, ils ont réussi à sortir de la machine intacte.
Face aux caméras de télé, le maire de New York, Michael Bloomberg, est le premier à saluer le courage du pilote et le porter au rang de héros national. Hemingway a défini l'héroïsme comme le pouvoir de la grâce sous la pression. Et je crois que l'on peut dire que le commandant de l'Airbus US Airways en a aujourd'hui démontré l'exemple, déclare-t-il aux journalistes. Le maire de New York félicite également l'équipage de l'Airbus, qui a su garder le contrôle de la situation pour évacuer l'ensemble des passagers dans le calme. Miracle sur l'Hudson, le héros de l'Hudson, titre le soir même le Daily News et le New York Post. Les deux quotidiens new-yorkais consacrent la moitié de leur édition à l'extraordinaire incident de l'Airbus A320 d'US Airways avec son héros, le pilote, un certain Sully, 57 ans, discret, voire timide. Il va se retrouver propulsé en l'espace de quelques jours, héros national aux États-Unis.
Thank you.
Sensible sur France Inter. Aujourd'hui, seul le héros d'Hudson.
Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Et des images donc très impressionnantes cette nuit à New York. Un avion de ligne qui coule, mais l'issue est incroyablement heureuse, Michael.
Ah ouais, image réellement impressionnante. L'appareil venait de décoller et quand il a été heurté par des oiseaux, réacteur étouffé, bloqué. Le pilote a donc tenté de faire demi-tour, impossible. Il a alors choisi de se poser sur les eaux glacées de l'Hudson. Les passagers ont attendu les secours sur les ailes de l'avion avant qu'il ne coule. Aucun mort, quelques blessés légers et surtout une grosse frayeur.
Vendredi 16 janvier 2009, New York. Sa photo s'affiche partout dans les kiosques à journaux de Manhattan. Son visage apparaît en boucle sur tous les écrans de télé. En moins de 24 heures, les médias aux États-Unis honorent le nouveau héros de tout un pays. Il s'appelle Chesley Sullenberger, surnom Sully. Il est le pilote de l'Airbus d'US Airways, auteur d'un amérissage extraordinaire sur l'Hudson. À 57 ans, cet homme de taille moyenne, visage souriant, cheveux gris et fines moustaches, fait partie des pilotes les plus expérimentés et les plus aguerris de la compagnie. C'est même une carrière hors norme de plus de 40 ans dans l'aviation. D'abord aux commandes d'avions de chasse F-4 Phantom au sein de l'US Air Force, ensuite aux commandes d'avions de ligne pour différentes compagnies en Amérique du Nord. Sully, c'est plus de 19 000 heures de vol au compteur. Sur son temps libre, il est aussi pilote et instructeur de planeur. Il est également président au niveau local de l'Association des pilotes de ligne aux États-Unis. Au sein du US Airways, Sully est à l'origine d'une formation spéciale pour les mesures d'urgence en cas de situation critique lors d'un vol. Avant l'accident de janvier 2009, US Airways estime que Sully a enseigné son programme à plusieurs centaines de membres d'équipage de la compagnie. Bref, un cadre de l'aviation américaine. Rendu public par la chaîne d'information CBS, les enregistrements radio entre le cockpit de l'Airbus et la tour de contrôle de l'aéroport LaGuardia témoignent du calme et du sang-froid de ce pilote lors de la panne de moteur. Sur les bandes enregistrées, il ne laisse paraître aucune peur, aucune émotion. Son copilote, Jeffrey Skiles, le confirme aux journalistes. Dès l'instant où nous avons heurté les oiseaux et de fait perdu toute puissance dans les réacteurs, Sully n'a pas montré le moindre signe d'excitation ou de nervosité. Non. Il a méthodiquement analysé tous les paramètres de vol, appliqué les procédures dont nous disposions, puis il a cherché à poser l'avion comme il l'aurait fait en temps normal. Sur France Inter, Fabienne Sintès, la correspondante de Radio France aux États-Unis, traduit quelques extraits de la seule interview donnée par Sully à la télé américaine.
Je devais me forcer à utiliser mon entraînement, dit-il. Rester calme, ça demandait juste de la concentration. J'étais sûr que je pouvais y arriver. Les premières nuits ont été les plus difficiles, quand j'ai commencé à penser, à refaire cet atterrissage. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Enfin, toutes ces pensées-là. Je ne veux pas diminuer les sentiments de gratitude des gens en diminuant ce que j'ai fait et en leur disant qu'ils ont tort. Je commence à comprendre pourquoi ils pensent. L'imagination des gens a été marquée par cet épisode. Ils veulent de bonnes nouvelles. Ils ont besoin d'espoir à nouveau. Si je peux aider dans ce sens, alors je le ferai.
L'histoire de Sully, le héros d'Hudson, est exceptionnelle à plus d'un titre. Et sa résonance dans les médias outre-Atlantique est d'autant plus grande qu'elle vient briser la spirale des crises et scandales qui s'abattent sur le pays depuis plus de 6 mois. Depuis l'automne 2008, en effet, les États-Unis se sont retrouvés plongés dans différentes affaires. Le krach boursier avec la faillite de Lehman Brothers, l'affaire Madoff, la guerre en Irak, en Afghanistan. Certes, entre-temps, il y a eu l'élection de Barack Obama en novembre, l'élégance à la Maison-Blanche. Mais aux yeux des médias, le personnage de Sully est une bénédiction plus grande encore, car il sacralise un héros populaire, et ça, les Américains adorent. Les journalistes reprennent évidemment toutes les anecdotes qui participent au récit collectif de glorification du pilote. Dans les colonnes du New York Times, un passager raconte, et je reprends ses mots, « Après que nous ayons été tous évacués, Sully est retourné à l'intérieur de l'avion. Il a parcouru le couloir à 2 reprises pour vérifier que personne ne soit resté à bord. Il a ensuite attendu que nous ayons tous évacué sur les ferries pour quitter l'aile de l'aile. Pareil, en dernier. Histoire de dire, Voilà un vrai commandant. Dans un magazine, un employé d'une petite bibliothèque dans laquelle se lit emprunté régulièrement des livres témoigne, lui aussi. Peu après l'accident, le capitaine Sullenberger nous a appelé pour s'excuser. Oui, car il devait nous rapporter un livre, mais il nous a expliqué que celui-ci était resté dans sa valise de capitaine, dans l'avion qui a améri. Et puis il nous a dit qu'il rembourserait l'ouvrage. Notre directeur a aussitôt refusé. Les responsables politiques essaient aussi de tirer profit de la popularité de ce livre. Le président sortant, George Bush, le félicite par téléphone et en direct à la télé lors de son dernier discours. Le maire de New York, Michael Bloomberg, organise lui une cérémonie dans laquelle il lui remet la médaille et les clés de la ville. Consécration ultime. Quelques jours plus tard, le 20 janvier, Sully est l'un des invités de marque présents à quelques mètres du couple Obama lors de la cérémonie d'investiture sur les marches du Capitole.
C'est la raison pour laquelle des hommes, des femmes et des enfants de toutes les races et de toutes les croyances peuvent se réjouir ensemble sur cette magnifique esplanade et pour laquelle un homme dont le père, il y a moins de 60 ans, n'aurait pu être servi dans un restaurant, peut maintenant se tenir devant vous pour prêter le serment le plus sacré.
L'amérissage de l'Airbus et du US Airways débouche sur l'ouverture d'une commission d'enquête pour établir les circonstances exactes de l'accident et les éventuelles responsabilités judiciaires et financières. Malgré l'absence de victimes et de blessés graves, les compagnies d'assurance doivent faire face à un préjudice estimé à plus de 90 millions de dollars, le prix de l'avion, désormais inutilisable. Aux États-Unis, c'est le NTSB, National Transportation Safety Board, équivalent du bureau enquête accident en France, qui se retrouve chargé de l'affaire. Il est constitué d'experts, d'anciens pilotes et de responsables du ministère des Transports. Après plusieurs mois de travail, après avoir inspecté l'épave de l'Airbus ramenée à quai et transportée dans un hangar, ainsi que plusieurs dizaines d'heures d'audition, pilotes, équipage, passagers, contrôleurs aériens, experts, le verdict sur les causes de l'accident est établi sans aucun doute possible. C'est bel et bien une collision entre un vol d'oie sauvage et les réacteurs de l'Airbus dans les minutes qui ont suivi le décollage de l'avion de l'aéroport de La Guardia à New York qui a engendré la panne totale de deux moteurs. Dans son rapport, le NTSB juge que l'option d'itinéraire initiée par le capitaine Chesley Sullenberger était la meilleure pour sauver les passagers, mais également pour éviter toute victime collatérale au sol. En outre, les enquêteurs estiment qu'au vu des témoignages des passagers, l'évacuation de l'Airbus par l'équipage du US Airways est un modèle de rapidité et de coordination. Le rapport souligne enfin que la coopération de Chesley Sullenberger et de son copilote durant toute l'enquête a été totale. Donc, tout va bien. Et pourtant, 7 ans plus tard, un film hollywoodien débarque au cinéma et certaines séquences viennent jeter le trouble sur les coulisses de cette commission d'enquête et sur la nature des accusations portées contre Sully.
Okay, thank you everybody. Thank you. Thank you, Captain Sullenberger, for being here today.
Why didn't you attempt to return to LaGuardia?
Pourquoi n'avoir pas tenté de rentrer à LaGuardia?
Tout simplement parce qu'on manquait d'altitude. L'Hudson était la seule surface assez longue, lisse et large, offrant ne serait-ce qu'une chance sur 1000 de se poser sans mal.
Selon le contrôle aérien, vous avez clairement dit que vous rentriez à LaGuardia, vous ne l'avez pas fait.
Eh bien, quand j'ai commencé le virage à gauche, j'ai compris que je n'arriverais pas à bon port. Et que cela nous privait des autres solutions. Rentrer à LaGuardia aurait été une erreur.
Bon, alors voyons comment vous avez calculé tous ces paramètres.
J'avais pas le temps de faire des calculs. J'ai dû m'en remettre à mon expérience de gestion de l'altitude et de la vitesse sur des milliers de vols depuis 40 ans.
Alors comme ça, vous n'avez fait aucun...
J'ai fait ça au jugé.
Vous avez fait ça au jugé?
Oui. Le plus sûr pour nos passagers, c'était de se poser sur le fleuve. Je l'aurais parié sur ma tête. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Et si c'était à refaire, je le referais.
Les ingénieurs aéronautiques estiment que vous aviez assez d'énergie pour arriver jusqu'à une piste.
Ouais, les ingénieurs ne sont pas pilotes. Ils ont tort.
Au printemps 2016, Hollywood s'empare de l'affaire du miracle de l'Hudson avec un film biopic intitulé Sully. À la réalisation, on trouve le légendaire Clint Eastwood. Dans le rôle du personnage principal, c'est Tom Hanks, multi-oscarisé, qui incarne Sully, le pilote. Dans la presse, les producteurs affirment qu'ils se sont inspirés fidèlement de l'accident de 2009, allant même jusqu'à interroger des passagers de l'avion pour obtenir des détails réalistes pour l'écriture du scénario. À l'écran, en effet, l'avion est bien celui du US Airways. Même modèle, même logo, le nom des pilotes, des contrôleurs, tout est identique à la réalité. Les détails de l'accident ? Des oies, effectivement, percutant les réacteurs, qui engendrent une panne totale de moteur. Scénario, là encore, tout à fait fidèle à la réalité. L'ambition du réalisateur et de son équipe était bien de rendre hommage à ce Lee, héros de l'Amérique. Le pari semblait simple à gagner. Et pourtant, pari manquait. Car dès les premières minutes du film, quelque chose sonne faux. Pour construire et appuyer la tension dramatique, les scénaristes vont inventer des échanges et des propos tenus par la commission d'enquête du NTSB sur les responsabilités de l'accident. Comme vous venez de l'entendre dans l'extrait précédent, le film prétend que les représentants du NTSB ont au début suspecté ce Lee de faute et de manquement grave aux règles et procédures de sécurité. À plusieurs moments du film, des simulations de vol laissent à penser qu'un autre scénario aurait été possible, ramener l'avion et le poser sur une piste. Certes, le film de Clint Eastwood voue et adoube sans cesse la démarche héroïque de ce Lee pour tenter de poser son appareil sur l'Hudson, mais à la sortie des salles de cinéma, il laisse planer le doute chez les spectateurs concernant les intentions du pilote et sur les raisons qui l'ont conduit à amerrir. Sur le plan historique, factuel, le long métrage de Clint Eastwood est donc dommageable, car il ternit l'histoire du miracle de l'Hudson en y incorporant de fausses accusations. Le NTSB condamne un scénario mensonger et rappelle que l'ensemble des transcriptions de l'enquête sont disponibles et qu'à aucun moment ce Lee n'a été soupçonné. Désormais retraité, le pilote ne réagit pas publiquement à l'affaire. Non, il laisse un livre de mémoire dans lequel il ne fait aucune mention de tension ni d'accusation de la part de la commission d'enquête. Ironie de l'histoire ou coïncidence étonnante, ce Lee a effectué quelques années auparavant, le 3 mars 2010, son dernier vol sur un Airbus US Airways. Et son copilote ce jour-là, sur le planning, c'est Jeff Skiles, celui-là même qui l'accompagnait le jour où il s'est posé sur l'Hudson. C'est la deuxième fois seulement que les deux hommes volaient ensemble dans le même cockpit. Un vol sans encombre, comme vol d'adieu pour celui que l'histoire retient comme le héros de l'Hudson.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Sully, le héros d'Hudson, notre invité Thomas Negaroff. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le temps de dire tout ce que vous faites, on arrivera à la fin de l'émission. Je vais le faire quand même. Vous êtes journaliste et historien spécialiste des États-Unis. Vous présentez l'émission Le Grand Face-à-Face tous les samedis sur France Inter et l'émission C'est Politique tous les dimanches soirs sur France 5. Vous venez de sortir un livre coécrit avec Philippe Corbet. Il s'intitule Les nouveaux oligarques. Comment les milliardaires américains imposent leur vision au monde. Livre paru aux éditions Les Arènes au mois de juillet dernier. Vous réalisez également une série de podcasts intitulée Anatomie, dont le dernier consacré au rapport entre la France et l'Algérie sous le titre Anatomie d'une déchirure. Et vous sortez enfin, après c'est fini, hein, votre nouveau roman, dont on dira un mot à la fin, il est intitulé La Conspiration. Dites-moi, cette histoire de film aurait évacué ça? Ça veut dire qu'on va en reparler quand même?
Oui.
Enfin, c'est très bizarre quand même, ce cinéaste Clint Eastwood, qui est un homme très intelligent. Il veut en faire un héros parce que le pilote est un héros. Et puis alors, il s'en mêle les pieds dans un tapis bizarre en inventant une soi-disant polémique entre le bureau d'études et le pilote. Pourquoi ?
Non, parce que le héros, c'est aussi, et surtout dans la tête de Eastwood, c'est celui qui lutte contre la bureaucratie. C'est celui qui doute contre un système qui est contre lui. Mmh. Le héros, c'est pas uniquement celui qui prend la bonne décision. Il faut qu'il y ait de l'adversité, surtout à Hollywood, surtout dans un film, dans une fiction. Et donc la narration, elle va imposer qu'il y a effectivement en face de lui une élite bureaucratique qui ne comprend rien. Ce qui permet de renforcer le génie de l'individu seul, ordinaire certes, mais qui prend la décision contre tout le monde, uniquement mu par son instinct. Ça, c'est important dans l'idée du héros, c'est qu'il sait ce qu'il faut faire, alors que les autres, ceux qui, soi-disant, ont fait des études, ne savent pas. Et ça, c'est très américain aussi de valoriser cet instinct contre le savoir.
Oui, mais ça peut aussi infuser le doute dans l'esprit des gens. Non.
Oui. Alors, j'ai pas vu le film comme ça. Quand je sors de ce lit, je me dis pas. Ah, est-ce que. Non, je me dis plutôt. Le type a vraiment été contre tous les éléments, contre d'abord les oies au Canada, ensuite contre les ingénieurs qui lui auraient dit plutôt, selon lesquels il aurait plutôt fallu tenter de s'atterrir à nouveau à La Guardia. Non, moi j'y vois plutôt vraiment quelqu'un qui, contre vraiment les éléments, a réussi à prendre la bonne décision pour sauver des hommes. Mais ce qui est important, c'est vraiment la dimension du héros. Vous avez dit, pas spectaculaire, banal, ordinaire.
Ouais.
Le héros ordinaire, c'est un héros démocratique. C'est ça qui est important dans les années 2000. Et vous avez très bien dit dans votre histoire que c'était après 2008.
Ouais.
Là où les élites ont failli, élite économique, élite politique, où elles ont menti, l'autorité a menti, et tout à coup, quand l'autorité ment, et c'est aussi là que la bureaucratie elle arrive, quand l'institution se trompe, qu'est-ce qu'il reste pour un Américain ? Le talent d'un individu
ouais.
seul, mais ordinaire.
Alors, Tom Hanks est parfait pour un héros ordinaire.
D'autant qu'il va jouer deux héros ordinaires du même moment, parce qu'il y a aussi le capitaine Phillips, vous savez, sur le navire pris par des pirates en Somalie, et qui va sauver son équipage. Là, c'est plus trouble, mais peu importe. Je crois que c'est 3 ans avant le film Sully, il joue Captain Phillips déjà au cinéma. Donc,
ouais.
Il est le héros ordinaire. Regardez, je sais que vous l'aimez bien, pensez à Forrest Gump. C'est le héros ordinaire qui est là et qui, par son propre génie, va changer des choses.
Voilà. Et puis ça n'a rien à voir, mais c'est un fan absolu de la conquête de la Lune, de l'histoire d'Apollo. Ouais. Il a fait une série formidable.
Qui est aussi sur le talent des hommes.
Ouais, et puis il y a une expo à Paris d'ailleurs en ce moment. Si cette affaire prend une dimension particulière, c'est qu'on a quasi immédiatement les images de la l'amérissage et ensuite les opérations de sauvetage. D'un point de vue narratif et journalistique, ça joue beaucoup. Est-ce que l'affaire Sully aurait une telle dimension sans ces images tournées par des caméras de surveillance, des amateurs sur Twitter ?
Non, sûrement pas. C'est effectivement peut-être le premier héros de l'ère Twitter.
C'est ça. Hein.
Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ère Twitter, elle va faire émerger des héros, mais aussi beaucoup de démons. Donc c'est un moment où l'individu, c'est vraiment une sorte de triomphe de l'individualisme aussi, cette histoire-là. C'est l'homme seul qui réussit à sauver par son talent seul le monde. Et en effet, Twitter, qui est une machine à produire de l'individualisme, se saisit évidemment de ça et les images vont tout changer. C'est vrai qu'il y a eu sûrement plein de héros par le passé, mais quand il n'y a pas l'image, il n'y a pas d'héroïsme. Et là, l'image, elle va être ensuite dupliquée par le cinéma hollywoodien. Donc on est effectivement dans une image, de l'image, de l'image, de l'image. Mmh. Et c'est ça en ça que c'est un phénomène à la fois technologique, technique, de courage, mais aussi un phénomène médiatique.
Le 10 septembre dernier, Charlie Kirk, militant politique et influenceur américain conservateur et nationaliste chrétien d'extrême droite, a été assassiné lors d'un meeting sur le campus d'une université dans l'Utah. Là aussi, dans les heures et les jours qui ont suivi, le jeune homme de 31 ans a été sacralisé en héros national par certains médias et plusieurs responsables politiques, comme le président américain Trump, son vice-président Vince, évidemment, puisqu'ils ont les mêmes idées.
Oui, le héros. Alors c'est intéressant, c'est que le héros, notamment dans sa dimension médiatique, c'est aussi le cas de Kirk, il remplit une fonction. Vous avez dit, le héros Sully, c'est la fonction à un moment donné de réconforter l'Amérique qui voit ses élites qui ont failli. Au début des années 80, le héros, c'est le héros bodybuildé, c'est Rambo, qui lui vient offrir à l'Amérique réganienne une consolation contre le déclin de l'Amérique des années précédentes avec Jimmy Carter. Dans les années 70, le héros hollywoodien, c'est celui du nouvel Hollywood, l'anti-héros, celui qui doute. Et donc, quand on regarde le héros, ce qui est passionnant, regardez un héros et vous saurez ce qu'est l'Amérique à ce moment-là. Et donc, c'est intéressant de citer Kirk, parce que dire aujourd'hui, si Kirk est un héros, ça raconte ce qu'est l'Amérique aujourd'hui. Le héros de la liberté d'expression, le héros du courage d'aller essayer de ferrailler sur les arguments dans une université qu'il qualifie de woke. Aujourd'hui, regardez ce qu'est un héros, ce qui constitue l'héroïsme d'un individu qu'on décide de faire héros, parce que l'héroïsme n'est qu'une construction intellectuelle, de faire un héros, et vous saurez ce qui est nécessaire à l'Amérique au moment où elle le considère comme un héros pour se consoler, pour se réconforter ou au contraire, comme Kirk, dans une dimension de combat.
Est-ce qu'on pourrait donner d'autres exemples de héros qui répondent à ces définitions-là ?
Bah, c'est difficile de vous sortir des héros, mais je trouve que l'idée d'aller chercher dans l'héroïsation à Hollywood du personnage, je crois que ça aide beaucoup à comprendre le héros. Mais ça marche aussi chez nous, hein. Quand on a des images sur des réseaux sociaux d'un type qui va escalader une façade pour aller sauver quelqu'un, tout à coup, vous avez une figure héroïque qui apparaît, qui a une fonction et qui nous dit « Ah !» Ben voilà de quoi on est capable en tant que nation. Parce que le héros, souvent, il vient capter le meilleur de la nation. Et Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, en 1830, disait déjà que cette passion égalitaire, certes, rejetait les grands hommes, mais aimait la grandeur. Et je trouve que le héros, quand il est puissant, c'est que c'est un héros démocratique, parce qu'il va exalter des valeurs qui sont des valeurs qu'on peut tous avoir en nous, à condition d'avoir le courage de les exalter.
France Inter. Affaires sensibles.
Thomas Negaroff, on a parlé de ce besoin de héros, de figures héroïques aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est la fabrique des héros, c'est peut-être le pays dans lequel on le voit le plus, avec notamment le cinéma au départ, les Superman et compagnie.
Oui, il y a plusieurs types de héros. Il y a le héros extraordinaire et puis le héros ordinaire. Superman, lisez Umberto Eco, le mythe de Superman, c'est le héros extraordinaire. Le mythe, le héros ordinaire, il est intéressant parce que soit il a un visage comme celui, soit il n'a pas de visage. Et on dit aux États-Unis, les héros de l'Amérique d'aujourd'hui, c'est la maman qui amène son gamin tous les jours au basket ou au foot américain. C'est les premiers répondants après le 11 septembre. Les policiers, les pompiers, etc. Ils n'ont pas de visage, mais ils sont héroïques. Et donc, on est dans un héroïsme collectif aussi parfois aux États-Unis. Mais je crois même qu'aux États-Unis, il y a la remise chaque année d'un prix du héros ordinaire américain. Donc on a vraiment une culture du héros qui, à mon avis, permet aussi de rééquilibrer peut-être aussi... Et c'est encore une fois, le héros, c'est celui qui agit alors que tout lui pousserait à ne pas agir. Et ce qui ne pousserait à pas agir, c'est la volonté de s'en sortir soi-même et de répondre aux injonctions de la bureaucratie. Ça, c'est très important quand on comprend les États-Unis.
Est-ce que la figure du héros peut passer par une figure présidentielle ?
Ah bah oui, le président américain est un héros, au moins pour la moitié des Américains. Alors dans l'histoire, c'était plutôt pour tous les Américains, mais bien sûr, le président se présente comme un héros, souvent soit ordinaire, soit extraordinaire.
Alors comment passe-t-on, ça c'est quand même une question lancinante, de Obama à Trump?
pour beaucoup d'Américains, Obama n'était pas un héros, mais était un démon. La démonologie, c'est un peu le versant inverse, vous voyez une pièce, il y a l'envers, et l'envers de la pièce, c'est derrière le démon, le héros, il y a le démon. Et on a construit, dans une droite américaine, en Obama, non pas le héros, non pas le messie, mais le démon. La démonologie, Michael Rodgin l'a très bien montré dans les années 80, est une fonction essentielle de la vie politique américaine. On dépeint l'autre comme un démon, et donc, comme il est démoniaque, tout est justifié pour le renverser, pour retourner tout ce qu'il a pu faire. Et Donald Trump, à mon avis, en 2016, aujourd'hui c'est moins vrai, mais en 2016, arrive et se présente comme le héros, ou le anti-héros, en tout cas celui qui vient détruire cette figure démoniaque qui était Barack Obama.
Mais pourquoi une figure démoniaque, Obama ?
Parce que pour eux, il est celui qui a mis en avant trop d'État-providence, qui a émasculé l'Amérique, donc il y a une dimension virile toujours très puissante aux États-Unis, celui qui est métisse, donc pour une certaine partie suprémaciste américaine, c'est inacceptable, qui ne serait même pas né aux États-Unis, parce que selon certains, et notamment Donald Trump depuis 2012, il était né à Hawaï, donc pas aux États-Unis. Bref, on construit une figure anti-américaine. Or, le héros, et celui en est l'incarnation, il est non seulement américain, mais il est l'Amérique.
Et l'héroïsme présidentiel passe par la virilité, on l'a vu entre Carter et Reagan notamment.
Oui, voilà.
Vraiment, Reagan qui arrive avec ses muscles.
Absolument.
America is back.
America is back.
Comme si elle était partie, elle avait disparu.
Ouais, c'est ça. Et le héros hollywoodien que j'évoquais tout à l'heure, il est vraiment cette figure-là.
Alors, je voudrais qu'on dise un mot de votre livre coécrit avec Philippe Corbet de France Inter. Ce livre s'intitule « Les nouveaux oligarques, comment les milliardaires américains imposent-ils leur vision ?» au monde. Et encore. Mais encore.
Ouais, c'est une galerie de portraits, de noms que vous avez sûrement entendus à la radio, à la télé, lus dans les journaux, mais dont on ne connaît pas vraiment non seulement la biographie. Donc on raconte la vie de Peter Thiel, par exemple, la vie de Jeff Bezos, la vie de Mark Zuckerberg, mais aussi leur vision du monde. Et leur vision du monde, souvent, elle est un peu inquiétante, elle est transhumaniste, elle est anti-État, elle est en faveur d'une liberté d'expression totale qui souvent ressemble à la loi du plus fort. Et donc on a essayé de construire une série de portraits, de 6 portraits. Parmi ces portraits, il y a aussi Donald Trump, parce qu'on se demande s'il est la marionnette ou le marionnettiste de ces milliardaires autour de lui. Donc c'est effectivement la naissance d'une forme d'oligarchie aux États-Unis. Ça a été beaucoup dit, notamment par Bernie Sanders, qui a fait un tour de l'oligarchie aux États-Unis. Et c'est ça l'idée.
Vous êtes passé donc de ce livre, qui est un livre documentaire, vous êtes passé à un roman, donc sorti le 1er octobre dernier, il y a 15 jours, ça s'appelle La Conspiration. De quelle conspiration s'agit-il ? Alors, je vois sur la couverture des militaires portant l'un un drapeau américain sur l'épaule, l'autre un drapeau nazi. Oui. Sur l'autre épaule.
C'est une vraie photo prise aux États-Unis. La conspiration, et c'est là où on est encore avec nos héros américains, mais c'est des Américains, des milliardaires américains, de la banque, de la finance, qui ne supportent pas l'arrivée au pouvoir de Franklin Delano Roosevelt en 1933, qui a une politique très anticapitaliste, ou en tout cas très anti-banquier. Il va même les faire défiler devant des commissions d'enquête parce qu'il les considère comme responsables de la crise de 1929. Et qui vont se dire, la solution, c'est de le renverser. Et de le renverser comment ? Par un coup d'État fasciste. Et ce qui est intéressant par rapport à nos héros, c'est qu'ils vont aller choisir un héros pour le faire, qui est aussi le héros de ce roman, parce que c'est tout de même un roman, qui est un vrai personnage, un général de la Première Guerre mondiale et même des guerres d'avant, qui s'appelle
Butler.
Butler. Et ce général Butler, un héros, ils vont tenter d'en faire le bras armé de ce coup d'État. Et c'est intéressant d'ailleurs même dans notre discussion sur ces coins héros, parce qu'on voit ce qu'on peut faire d'un héros. Un héros n'est pas une espèce de figure comme ça, dans le ciel. Le héros est instrumentalisé. Le héros a une fonction. Et la fonction, elle peut être de consoler une nation, de se tendre un miroir flatteur, mais ça peut aussi être, parfois comme ici dans cette histoire, d'aller se choisir un héros à des fins qui ne sont pas forcément héroïques, parce qu'il s'agissait ici d'une véritable tentative de coup d'État pour renverser une démocratie américaine, pour y mettre, parce qu'ils voient très bien comment l'ordre fasciste fonctionne et est très très bon pour le business en Europe. Ils adorent Mussolini, ils se disent « c'est exactement ça qu'il faut faire chez nous ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aller chercher Butler, et aussi, comme en Europe, ces milliers et ces centaines de milliers de vétérans de la Première Guerre mondiale, affamés par la crise de 1929, nourris par un véritable ressentiment, ils se disent « il y a là un ferment qui a marché en Europe et qui peut marcher chez nous ».
Et nous sommes en 1933, l'année de l'accession d'Hitler au pouvoir, je le rappelle. Donc, au cœur des années 30, où ces idées-là, effectivement, ont le vent en poupe, et pas qu'en Europe, la preuve.
Oui, et c'est l'intérêt, c'est effectivement de raconter que le fascisme aux États-Unis a une histoire, que mettre un fasciste à la Maison-Blanche a été un projet à un moment donné dans l'histoire américaine, une histoire totalement oubliée.
C'est vrai.
Parce qu'elle a été largement nettoyée par l'après-Seconde Guerre mondiale, l'Amérique qui vient libérer les démocraties, ça a été aussi le cas, et donc on a préféré mettre sous le boisseau cette histoire-là des années 30.
Bien, c'est très intéressant. Thomas Negaroff, merci infiniment. Au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Sully, le héros d'Hudson, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Rémi Sistiaga.